Il n'est pas doté des 32 aspects ni des 80 signes distinctifs. Il n'est pas restauré. Comme il est le Bouddha présent à l'origine et demeurant en permanence, il est tel qu'à l'origine. C'est ce qu'on nomme, ce que l'on nomme le passé infini. Le passé infini est Nammyoho Renge-kyo. Donc c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Aussi, dans les sept points de transmission du Gonzon, donc peu de temps avant de mourir, Nichiren dit, les cinq éléments du monde des phénomènes sont les cinq éléments du corps unique. Le monde des dharmas est Nichiren. Nichiren est le monde des dharmas. Son degré est la merveille sans transformation. Fleur de lotus substantifique de l'éveil des secours du Bouddha originel sans artifice, Myoho Renge-kyo de la simultanéité de la cause et de l'effet. Cette grande merveille pour le Bouddha, Myo c'est la merveille, est appelée par les humains obscurité. C'est-à-dire que ce qui est merveilleux pour le Bouddha parce qu'il le voit, et l'obscurité des vies et des morts pour le simple mortel. L'humain se lamente de la mort et se réjouit pour la naissance, alors que le Bouddha voit la merveille, sauf qu'il ne peut y avoir ni apparition, ni disparition de quoi que ce soit. Comprenez bien que si la cause et l'effet sont simultanés, et c'est le cas, si tout est instantané, rien n'a de point de départ. C'est le passé infini. L'éveil dans le passé infini est Myoho Renge-kyo. Donc, le souverain de la loi dit, c'est dans un tel état de sagesse que Nichiren Daishonin révéla le Daigonzan en tant que Bouddha originel de l'ensemencement dans la fin de la loi. Comme on dit, le Onzan laissé par le Daishonin montre l'éveil du passé infini pour les 10 états. C'est ce devant quoi on pratique matin et soir. Aussi, Shakyamuni, dans son enseignement, quand il s'éveille à la loi, montre sa sagesse, montre un corps orné de 32 aspects et 80 caractéristiques, avec la protubérance sur la tête, le troisième œil, machin. Donc avec en montrant ça, les gens, et en disant aux gens, voyez-vous, tout ce que j'ai fait dans le passé pour accumuler autant d'actes positifs, pour montrer maintenant un corps aussi exceptionnel, bien parce que j'ai fait des efforts, hein, c'est pas arrivé comme ça par hasard. Donc, Shakyamuni est doté des 32 signes distinctifs. Et en somme, il utilise la parabole des 500 grains de poussière qui symbolisent l'infini en disant « Depuis un temps infini, j'ai atteint l'éveil, et c'est pour ça que vous me voyez maintenant débarquer dans le monde avec un corps supérieur à la moyenne des êtres. » Donc, Shakyamuni utilise la linéarité du temps pour dire « Voyez-vous tout ce que j'ai accumulé, puisque maintenant vous en voyez les effets physiques. » Donc c'est bien que j'ai accumulé quand même pas mal de choses. Bon. Mais à l'opposé de cette logique, Nichiren enseigne le passé infiniment lointain et étendu, c'est-à-dire le passé avant le point de départ, avant le passé infini. Donc, Nichiren, ce qu'il montre, c'est l'éveil de l'être ordinaire au degré de la cause de dénomination. C'est-à-dire qu'en tant qu'être ordinaire, nous ne pouvons pas montrer l'accumulation des mérites dans le passé. L'enseignement du Bouddha originel dit que l'être ordinaire, tel qu'il est, dans les troubles, en nommant, fait apparaître l'éveil immédiatement. C'est la raison pour laquelle jamais Nichiren n'a écrit, quelque part, que lui-même avait atteint l'éveil dans le passé quelconque. Il n'a pas dit « j'ai atteint l'éveil avant Shakyamuni, j'ai atteint l'éveil à tel moment, pour montrer que maintenant je l'ai ». Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'avant et d'après. C'est-à-dire que si Shakyamuni utilise la linéarité du temps pour montrer l'importance de l'enseignement, Nichiren, pas du tout. Il va dire que l'être ordinaire qui nomme fait apparaître immédiatement l'éveil des secours. C'est l'enseignement du Bouddha originel. Donc, Nichiren, lui, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'être vivant ? Il montre le corps du Bouddha du passé infini, qui est inhérent au chapitre durée de la vie. C'est-à-dire que le Honzon, qu'il fait apparaître, c'est le Honzon que devant lequel Shakyamuni a pratiqué dans le passé hors le temps. Donc, on squeeze l'idée de linéarité du temps, et Nichiren fait apparaître le Honzon, Honzon qui a toujours été ce qui a permis l'apparition de l'éveil de tous les Bouddhas, de tous les temps et de tous les espaces. Donc, ce corps, le Ronzon, est le véritable corps du Bouddha, substance du monde des dharmas infinis, dépassant les notions de temps et d'espace, et réalisant la fusion parfaite de la sagesse de Myōrō-rinpoché et de l'objet de Myōrō-rinpoché, corps dont la forme et l'esprit sont la terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace. Nous sommes constitués de terre, d'eau, de feu, de vent et d'espace. Le Hanzan est constitué de terre, d'eau, de feu, du vent et d'espace. Le Bouddha est constitué aussi de cela. La terre, l'eau, le feu, le vent et l'espace sont la loi. Sans Myōrō-rinpoché. Et tout le temps, il y a identité de la personne et de la loi. Alors que chez Shakyamuni, c'est pas l'identité de la personne et de la loi. S'il atteint l'éveil, la loi est donc antérieure à Shakyamuni. Au nom de notre école, c'est pas ça. La personne est EST la loi. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de loi avant les phénomènes, ou qu'il n'y a pas non plus de phénomène avant la loi. Pourquoi? Parce que la notion d'avant et d'après n'existe pas. Tout est en permanence. Et bien que constitué d'eau, de feu, de vent, de terre et d'espace, l'avidité peut surgir, l'horreur peut surgir, l'angoisse peut surgir, la colère peut surgir, l'orgueil peut surgir, l'éveil peut surgir aussi. Toujours, toujours, toujours. Donc notre doctrine insistera sur le fait que c'est en dénommant, donc récité, que se manifeste l'apparition de l'éveil immédiatement.
Et que c'est l'éveil incarné,
c'est ça.
C'est dans l'éveil, c'est naturel dans l'éveil.
C'est ça.
C'est dans l'éveil, naturel dans l'éveil.
Voilà,
c'est pas l'origine, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas de...
C'est-à-dire qu'en fait, quand on est dans l'éveil, pas comme le dit le souverain de la loi, si je disais le prêteur de conneries dont je me base sur les écrits, le souverain de la loi dit qu'au moment où on atteint l'éveil premier, on réalise que toutes les souffrances qu'on avait jusqu'à ce jour étaient des souffrances d'emprunt.
Mmh.
Autrement dit, c'est par bienveillance à notre insu. À notre insu. Que l'on prend les souffrances d'emprunt de façon à ne pas être différent des êtres. Quand on réalise l'éveil la première fois, on réalise que ça a toujours été nous. Mais quand vous tombez amoureuse d'un mec, vous n'êtes pas autre. Et cet état de passion, c'est bien vous-même. Quand le mec se calque avec une autre plus jeune, évidemment, l'état change. Mais quand vous tombez dans l'état où personne ne m'aime, personne ne veut de moi, je suis une vieille conne, quand vous pensez ça, vous n'êtes pas non plus autre que vous-même.
Oui.
Dans tous les cas de figure, que vous viviez l'amour, le bonheur, la joie, la tristesse, vous n'êtes jamais autre que vous-même.
Mm-hmm.
Vous vous retrouvez toujours dans cette exaltation amoureuse, ou dans la déprime, en disant personne ne m'aime et je me retrouve comme une conne. Bon. Eh bien, quand on atteint l'éveil, on réalise que ça n'a jamais été autre que nous. Et en l'occurrence, pratiquant 10 ans, 20 ans, 30 ans, essayant de faire pratiquer les autres, en essayant d'expliquer le bouddhisme aux autres, eh bien, on réalise un jour que nos souffrances étaient les souffrances d'encon, juste pour pouvoir montrer notre éveil et notre bienveillance. Non, Shakyamuni dit les choses suivantes. Dans le futur... dans le futur, mes disciples ne montreront pas l'aspect de Shomon et Engaku, 7e, 8e état. Il dit au contraire, mes disciples montreront l'aspect des vues erronées et des troubles. Ainsi pourront-ils mener à l'éveil une infinité d'êtres.
En démocratie.
Shakyamuni, quand il apparaît.
Les Bouddhas démocrates ont un
Quand Shakyamuni apparaît, tout le monde sait qu'il est différent. Il est plus grand, il est plus beau, il excelle dans les arts, il a plein de sagesse. Voilà. Donc, tout le monde, en fait, ça, c'est l'enseignement provisoire. Mais dans l'enseignement définitif du Bouddha, il naît en tant que fils de pêcheur.
Mm-hmm.
En tant que moine, pas beau, pas intelligent, machin, mais lui. Donc, lui-même montre que la doctrine fondamentale du Bouddha, c'est que l'éveil surgit dans l'être ordinaire, et non pas dans l'être qui a accumulé.
Contrairement aux enseignements provisoires.
Parce que l'autre pendant de l'enseignement provisoire, c'est que tel que vous êtes, pour atteindre l'éveil, il faut renaître et renaître et renaître et renaître encore, 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 encore. Mais quand on dit renaître dans des milliers d'éons, ça veut dire jamais. Qui se souvient de quoi? Hein, comme disait Shakyamuni, ils se souviennent de rien, ne savent rien, ne se donnent de rien, n'ont peur de rien. Quand tu dois renaître des milliers d'éons pour atteindre l'éveil, évidemment, tu te souviens de rien. Ça marche pas. Donc l'enseignement provisoire indique une durée infinie pour montrer Shakyamuni tout ce qu'il a fait, et indique une durée infinie pour montrer ce qu'il faut faire pour atteindre l'éveil aux êtres ordinaires, alors que l'enseignement définitif du Bouddha, c'est l'immédiateté en nommant. Pourquoi? Parce que le nom touche la substance.
En fait, il faut se réjouir à chaque fois qu'on a une critique.
Ah ben évidemment. Évidemment.
Imagine, c'est plus facile.
Imagine que tu sois loué et que tu aies les hommes à tes pieds tout le temps, tu pourras en pleurer. Tellement enorgueilli par la réussite, d'être aimé par tout le monde, des autographes dans les rues, machin. Ah, mais j'ai touché, je l'ai touché, je l'ai touché. Que tu te dis, ça baigne pour moi, pourvu que ça dure, mais tu... Alors que par contre, être méprisé, être haï, ou être mal compris, ou être détesté, ou, c'est une excellente école. Quand vous dites à votre mari, chérie, tu vas mal, je viens de faire un peu de taïmoukou, puis ce qu'il te répond, toi, pauvre toi, regarde-moi ça, t'es pire que moi, tu pratiques depuis 10 ans. Alors, tu dis,
Non, mais là, ça. Donc, en pire que
vous. Vous comprenez?
Mais c'est vrai que, par exemple, les gens qui ont le pouvoir, c'est pas...
Bah, ça baigne!
Oui, mais en même temps, les gens leur tirent les pompes tout le temps, ils voient plus clair. Moi, je dis, ils voient plus clair, ils peuvent pas voir.
Mais ils voient pas. Et
ils
comme
voient
ceux,
rien du tout.
Et comme ceux qui flippent. C'est pareil,
c'est
hein.
C'est facile. Oh.
Donc, je sais pas, quelle heure il est? Il est 9h30. Donc, j'avais prévu trop, encore une fois.
Mais quand même, j'ai remarqué quand même qu'au bout de 25 ans, les gens, genre par exemple les gens proches, ou même pas proches, hein, se rendent compte de quelque chose, même s'ils ne peuvent pas nommer. Je sens que les gens sont sensibles, je pense, c'est peut-être en pratique. Il y a même s'ils ne peuvent pas nommer, parce que ça n'apparaît pas forcément dans des bienfaits apparents. Voilà.
Donc je termine sur quelques citations du Bouddha originel. Donc Nichiren dit, si nous gardons ces 5 caractères de Myoho Rengekyo, il nous sera tout naturellement accordé de recueillir les mérites de l'enchaînement de la cause et du fruit. Et il dit aussi, les mérites de l'enchaînement de la cause et du fruit ne sont-ils pas la moelle de nos os? Nous ne sommes que la causalité momentanée, instantanée, cause et effet simultanée. Et il dit également, récitez vous-même Nammyoho Rengekyo d'un cœur unique et préconisez-le à autrui. Ce sera le souvenir du passage de votre vie présente dans le monde des êtres humains. Récitez vous-même Nammyoho Rengekyo d'un cœur unique et préconisez-le à autrui. Ce sera le souvenir du passage de votre vie présente dans le monde des êtres. Au moment de la mort, le souvenir, le grand souvenir que vous aurez d'avoir vécu dans le monde des êtres, ce sera d'avoir pratiqué et enseigné la loi, selon votre capacité, bien entendu.
C'est tout ce qui reste.
C'est tout ce qui reste. Et aussi, je t'amènerai là-dessus, celle-là est très belle, il dit, même à l'instant de sa mort, s'il n'invoque pas le Bouddha dans son cœur, ne récite pas le sutra, ni ne pénètre dans le lieu de la voix, celui qui croit au sutra du lotus reçoit la vertu d'éclairer le monde des phénomènes sans y penser, de réciter tous les sutras sans émettre de son, et d'embrasser les 8 rouleaux du lotus sans les prendre. Donc, pratiquant matin et soir, on ne voit pas les résonances dans l'environnement, dans ce qui n'est pas là une pensée. Mais Nichiren dit qu'en récitant, il dit c'est comme le melon qui étend ses vrilles alentour. Plus on pratique et plus comme ça on fait jaillir dans notre environnement ce qu'on appellera des divinités protectrices qu'on ne peut pas voir. Mais autrement dit, toute notre vie toute notre pratique illumine un tas de données de notre vie et ces données illuminées ne peuvent ni apparaître ni disparaître. Donc on les entraîne avec nous au moment de la mort. C'est ce qui fait notre corps, en réalité. Même si on ne le voit pas. On le voit à un moment, bien sûr. Mesdames et messieurs, il est 9h30, c'est bon. On arrête. On n'a pas été bien loin aujourd'hui, on passe de la vie.
C'était
C'était clair.
Ouais. C'est vrai que le fait qu'on continue à pratiquer, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Même si on ne fait pas exprès, le fait qu'on continue à pratiquer avec les difficultés que ça comporte, hein, parce que
ouais.
Il me dit, moi, des fois, je vais quand je dis pas mon bio pour essayer de financer, c'est rare. Mais...